Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Ise Tsikar, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Thibaut Nassimben.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est une série consacrée à la viande que nous vous proposons cette semaine. Depuis les premières prises de chasse de l'Homo habilis il y a 2 millions d'années jusqu'aux chaînes de production contemporaines, demain on s'intéressera à la filière viande, quel est l'itinéraire d'un beefsteak des prairies à nos assiettes. Mercredi, ce sont les conditions de travail dans les abattoirs qui nous occuperont après la multiplication des scandales largement médiatisés. Jeudi, enfin, on tentera de dessiner l'avenir des relations entre l'homme et l'animal. Mais d'abord, retour sur l'histoire de notre alimentation carnée. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la consommation de viande dans l'histoire et en particulier au Moyen-Âge avec Bruno Loriou, historien, professeur à l'université François Rabelais de Tours et Madeleine Ferrière, historienne, professeure honoraire à l'université d'Aix-Marseille. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige à vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, je n'ai pas là-dessus la lumière de nos amis. Vous n'aurez pas ici un repas fort savant et vous y trouverez des incongruités de bonne chair et des barbarismes de bon goût. Si damier s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Il ne manquerait pas de vous exagérer toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, de vous faire tomber la corde de sa haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous parler d'un pain de rive, un biseau doré, relevé de croûte partout et croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sève veloutée, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de bouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous la dent est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevée d'un fumet surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon, cantonné de pigeonneaux, et couronnée d'oignons blancs, marié avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance. Et comme l'a si bien dit Monsieur Jourdain, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert.
Bonjour Madeleine Ferrière.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors Bruno Loriou est un petit peu en retard, il va nous rejoindre dans quelques instants. Nous venons d'entendre un extrait du Bourgeois gentilhomme de Molière par Maurice Escande de la Comédie française. Une pièce représentée pour la première fois en 1670 devant la cour de Louis XIV. Pour commencer, Madeleine Ferrière, qu'est-ce que cette description nous dit de la viande que l'on consomme au XVIIe siècle à l'issue du Moyen-Âge, période dont nous allons ensuite longuement parler?
Oh, il y a plusieurs portes d'entrée possibles. D'abord, vous savez, la définition même de ce qu'est une viande et une viande de boucherie a changé suivant les cultures et les époques. Et là, on a une définition toute classique où on trouve du mouton d'abord. C'est vrai que le mouton, on l'oublie, était très répandu sous Louis XIV en France. Et même dans des régions où on l'attend pas, les plaines à blé sont des plaines à moutons. La Beauce, sans doute, compte plus de moutons que la Provence. Il nous parle aussi de veau, et c'est vrai que on est sous Louis XIV, et on sait, nous les historiens, en observant les courbes des prix, qu'à partir de 1640, le prix du bœuf est passé devant celui du mouton. Donc la hiérarchie a un petit peu changé, et la promotion du bœuf, eh ben on y est en plein. Et puis, il nous montre aussi, on est bien entendu dans un milieu bourgeois aisé, qu'il y a une certaine gastronomie qui se met en place, dont bénéficie cette maison bourgeoise. Voilà, il y a plein de choses aussi. Et puis, il y a quand même quelque chose que je voulais dire aussi, parce que souvent les mots peuvent nous cacher les réalités. Il parle ici de bœuf, il parle de mouton, de veau. Et pour nous, ça nous semble des réalités tout à fait familières. On a sous les yeux, on imagine notre beefsteak quotidien. Bien, on se tromperait lourdement. Parce que vous savez, quand on étudie la viande, on étudie deux paramètres, à la fois l'histoire des hommes, l'homme mangeur lui-même, avec ses goûts, ses attentes, ses dégoûts, ses refus aussi, avec le végétarisme. Mais on étudie aussi l'histoire de l'animal, l'animal tel que souvent façonné par l'homme, avec la sélection. Et ce qu'on sait aujourd'hui nous montre bien que les animaux d'hier ne ressemblaient pas du tout à celui d'aujourd'hui. Et le bouillon de bœuf que va consommer Monsieur Jourdain, il est fait à partir d'un bœuf de boucherie parisienne, mais et qui doit peser peut-être, je ne sais pas à quel poids vif, je crois que poids vif moyen à cette époque, on peut compter entre 250 et 300 kilos. Ça n'a rien à voir avec Hugo Boss. Hugo Boss, c'est le nom du charolais qui a été primé au dernier concours du Salon de l'agriculture.
Et qui faisait combien de kilos?
1870.
Ah oui, on voit bien l'évolution, en effet. Alors, on va revenir bien longtemps en arrière pour voir les origines, véritablement, Madeleine Ferrière, de notre alimentation carnée. Alors, il y a 2 millions d'années, je le disais, l'Homo habilis nourrissait des restes de grands herbivores tués par d'autres prédateurs. Il commençait à chasser lui-même le petit gibier. Puis, ce sont les hommes du Paléolithique qui s'attaquent au grand gibier grâce à des outils qui se perfectionnent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à l'origine, la consommation de viande est permise par l'amélioration des techniques avant d'être dépendante des interdits et des peurs alimentaires, comme on va le voir.
Je sais que l'histoire des origines de la consommation de viande est une histoire qui est sans cesse mise à jour par nos collègues, en particulier archéozoologues. Et ils ont travaillé depuis longtemps non seulement sur les vestiges osseux, mais aussi sur les graines, ce qui permet de revoir la vieille image qu'on avait d'un homme préhistorique uniquement carnivore. Il était omnivore, l'homme est omnivore dès le départ, un omnivore un peu à géométrie variable, suivant les contextes, bien entendu. Et aujourd'hui, les travaux sur les restes osseux, avec des nouvelles techniques, permettent aux archéozoologues d'arriver même à reconstituer la stature des animaux, à voir comment elles évoluent. Et c'est là qu'on voit des choses très intéressantes, que l'homme a réagi sur son bétail, dès par exemple l'Empire romain, où on voit une vocation bouchère déjà s'affirmer à travers la sélection du bétail.
On situe en général la domestication des animaux, et notamment celle des bovins, à une période comprise entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ, au Proche-Orient d'abord, puis en Europe.
Oui.
C'est une période où les mythes et les rites sacrificiels, Madeleine Ferrière, permettent d'accepter et de ritualiser le fait d'élever des animaux et non plus seulement de les chasser. On voit une transformation dans les représentations des animaux.
Alors là, j'avoue que il y a différentes formes de consommation de viande qui se détachent, qui se distinguent, et il faudrait les examiner l'une après l'autre. La consommation rituelle avec le sacrifice religieux, la consommation profane. C'est vrai que le monde antique a déjà développé toute une gamme de consommation. Je suis pas spécialiste, vraiment.
Ce qu'on peut dire à Madeleine Ferrière, c'est que l'histoire de l'alimentation en général et de la consommation de viande en particulier se heurte à la difficulté de savoir ce que les gens mangent au quotidien. Vous avez parlé de l'archéozoologie, mais pour le Moyen-Âge aussi, c'est une difficulté. On manque tout de même de sources.
Oui, mais on a quand même, à partir du Moyen-Âge, les sources écrites, et il y a longtemps que les médiévistes se sont penchés sur les registres de boucherie, et ils ont dégagé des chiffres, par exemple, de consommation moyenne, qui n'ont qu'une signification relative, parce que, bien entendu, une moyenne de 30 kilos par an, ça représente combien pour le pauvre en ville, ça représente combien pour le riche, mais ça nous donne déjà un indice, et tout ça, lu dans la durée, nous donne aussi des évolutions, des tendances qui nous montrent comment, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, il y a une augmentation de la consommation de viande. L'homme du XIVe ou au XVe siècle est plutôt un carnivore heureux.
Alors une dimension importante dans le rapport à la viande, c'est la question à la fois des tabous et des peurs alimentaires sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Et alors pendant l'Antiquité, de nombreux penseurs considèrent la viande comme l'ennemi de la frugalité bienheureuse. C'est Plutarque, par exemple, qui écrit au 1er siècle « Pourquoi péchez-vous irréligieusement à l'encontre de Déméter, inventrice des saintes lois, et faites honte à doux et gracieux Dionysos, comme si ces déités-là ne vous donnaient pas suffisamment de quoi vivre? N'avez-vous point honte de mêler à vos tables les fruits doux avec le meurtre et le sang ?» On voit que cette vision est très présente à ce moment-là, Madeleine Ferrière.
Oui, c'est tout le problème du végétarisme. Vous savez, y a l'histoire de la viande qui est très ancienne, et il y a l'histoire du refus de la viande qui est tout aussi ancienne. Parce que dès que l'homme se met à manger de la viande, et il se heurte à ce qu'on a pu appeler le paradoxe du carnivore, c'est-à-dire on veut manger de la viande, mais sans savoir d'où provient cette viande, en oubliant le meurtre initial et en oubliant le cadavre dans son assiette. Donc, vous citez Plutarque, c'est ce grand penseur romain du 1er siècle, qui lui a formalisé vraiment tous les arguments de ceux qui refusaient la viande, justement pour ne pas avoir à tuer les animaux. C'est le végétarisme antique et qui va perdurer pendant très très longtemps. Alors, je peux pas dire que le végétarisme d'aujourd'hui est vraiment l'héritier direct, parce que je pense que pendant très longtemps, il n'y avait eu qu'un type de végétarien. Disons ce végétarien éthique qui refuse le meurtre de l'animal. Mais, par exemple, un autre type de végétarien qu'on peut rencontrer aujourd'hui, disons le végétarien égoïste, qui ne mange pas de viande pour des raisons de santé, parce qu'on lui a appris que le gras fait le gros. Ça, il me semble... Mais enfin, Bruno, qui arrive...
Bruno Loriot est en train de nous rejoindre. On va laisser effectivement s'installer.
Je ne l'ai pas vu dans la période moderne, dans la mesure où on a des sociétés qui sont très lipophiles, qui ont besoin de graisse et qui ne refusent pas la viande au prétexte qu'elle représente un apport de gras.
Bonjour Bruno Loriot, et
bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors on parle de cette vision éthique qui est propagée par Plutarque et qui sera ensuite perpétuée par l'ascétisme chrétien avec Saint Paul par exemple. Et alors dans le christianisme, qu'est-ce qui pose problème dans la consommation de viande, Bruno Loriot ?
Alors, d'abord, mes excuses hein, pour le retard.
Vous êtes tout excusé.
Donc, je ne sais pas si vous avez commencé à en parler, mais bon, c'est l'idée, c'est quand même que la viande, c'est échauffant. D'ailleurs, c'est une idée qui est partagée entre l'Église et la faculté, la médecine.
Donc, dans quel sens ?
Alors, dans le sens où donc elle échauffe le tempérament. Mm-hmm. Vous savez, on est dans le cadre d'une diététique des humeurs et des qualités premières. Donc, elle échauffe le tempérament. Elle peut donc conduire à ce qui est quand même un gros péché, le pire hein, pour l'Église, qui est la luxure. Vous voyez ? Donc, du coup, pour un peu faire baisser la température, on a envie de dire, hein, donc il vaut mieux se priver de viande, en effet. Hein. C'est ce qu'on trouve dans les textes très anciens ascétiques. Et c'est probablement lié à la diététique antique. En fait, il y a un lien. Hein. Je ne sais pas si vous avez parlé du livre autour duquel on parle.
Alors, pour l'instant, on a surtout parlé de l'Antiquité. Mais ce qui est intéressant, peut-être Bruno Loriot, c'est le fait que la religion chrétienne ne pose pas, cependant, d'interdit alimentaire absolu. Même les exhortations aux jeunes sont suivies d'arrangements, par exemple.
Ah oui, bien sûr. La privation... Alors, il n'y a pas de privation d'aliments en tant que tel dans l'Église médiévale, on va dire. Mais il y a effectivement le fait de se priver, pour des motifs de pénitence, de viande à certains moments. Voilà, c'est plutôt une privation de cet ordre-là. Ça peut être au carême, ça peut être à d'autres moments. Mais il est toujours possible d'avoir des dispenses. Et si on fait la liste des dispenses, elle est très longue, hein. Donc, vous avez les femmes enceintes, vous avez les jeunes jusqu'à 21 ans. Donc, ça fait quand même un paquet de gens hein, dans les sociétés anciennes. Les vieillards, les malades,
on
les travailleurs de force.
On peut payer pour être dispensé.
Alors, payer, ça c'est peut-être un peu excessif, je ne sais pas, ça va un peu loin. Mais si on est en bonne santé, qu'on n'est pas enceinte, pas enfant, pas vieillard, pas malade, pas mendiant, vous voyez, normal, quoi. Et qu'on veut néanmoins avoir une dispense, là, il faut demander au pape. Et ça, c'est dans les registres de la pénitencerie apostolique, et on peut aujourd'hui, des siècles plus tard, retrouver ces dispenses et voir quels étaient les arguments qui étaient lancés, qui étaient souvent, donc à la fin du Moyen-Âge, des arguments de type médical. Alors ça portait moins sur la viande que sur les graisses animales.
Alors on va voir que la consommation de viande va prendre un essor important à la fin du Moyen-Âge, au XIVe et au XVe siècle. Pour quelles raisons ? Eh bien écoutons d'abord les explications de l'historien Benoît Descamps au micro de Jean-Noël Jeannonnet dans Concordance des temps.
C'est sans doute un moment de notre histoire où la consommation carnée est la plus importante pour des questions diverses. D'abord, suite au phénomène de la grande peste qui, en diminuant d'un tiers la population européenne, a libéré un certain nombre d'espaces ruraux qui ont été du coup consacrés à l'élevage, et un élevage qui du coup devient un élevage véritablement spéculatif. Ça correspond par ailleurs au même moment à une reprise de croissance des villes, la consommation carnée qui est associée à une consommation plutôt luxueuse, plutôt urbaine, fait la fortune des bouchers. On l'observe par l'augmentation du nombre des bouchers dans les villes, en particulier donc sur le cas que j'ai le mieux étudié sur Paris. C'est un groupe qui véritablement apparaît, même si son existence en tant que métier plus ou moins organisé remonte à beaucoup plus loin.
On a donc une augmentation de la consommation de viande, nous explique Benoît Descamps, qui est aussi visible à cet essor des bouchers de Paris, Madeleine Ferrière, Bruno Loriot.
Oh ben, c'est bon, on peut parler tous les deux de ça. Donc, effectivement, c'est le moment où s'affirme dans les villes un milieu de boucherie. Alors, il faut voir qu'il y a plusieurs, ça, je pense, Madeleine pourra peut-être mieux l'expliquer que moi. Il y a plusieurs types de boucheries dans les villes médiévales. Ça commence.
On va en parler de la grande boucherie et
voilà,
de la petite boucherie.
Voilà, c'est ça. Alors là, ce dont parle Benoît Descamps, c'est la grande boucherie parisienne. Donc, un milieu assez restreint, une sorte d'élite de la profession bouchère, qui ne traite que de certaines espèces, pas de toutes. Et qui a des prétentions d'excellence, on va dire, très clairement. On a même la chance d'avoir un document qui renseigne très précisément sur les pratiques de la boucherie parisienne, ce qui est plutôt rare, c'est un registre judiciaire, c'est-à-dire qu'elle avait, cette boucherie avait sa propre juridiction. Elle était chargée de faire, en quelque sorte, régner la qualité. Et de ce fait, on sait très bien quels étaient les problèmes qui étaient posés et comment... elle maintenait cette exigence de qualité. Donc, effectivement, alors on sait que les bouchers parisiens ont joué un rôle politique au XVe siècle. On sait que les grandes familles de bouchers qui ont pris en quelque sorte le pouvoir de la corporation, si on peut employer ce terme, donc au XIIIe, au XIVe siècle, sont encore là au XVIIe, au XVIIIe. Elles sont encore les familles dominantes de la boucherie parisienne.
Et peut-être faut-il remettre cette consommation de viande dans un contexte plus général. Madeleine Ferrière, l'historien Jacques Le Goff, disait que le Moyen-Âge était le temps de la faim, de la famine. Alors comment comprendre cette augmentation importante de la consommation de viande à la fin du Moyen-Âge ?
Je crois que les raisons ont déjà été données. On dit souvent l'homme chasse le bétail ou le bétail chasse l'homme. La fin du Moyen-Âge voit la population diminuer et donc le bétail peut parcourir de plus grands espaces. Ensuite, à partir de l'époque moderne, c'est le mouvement inverse qui se passe, c'est-à-dire que il y a une progression démographique. Les hommes se multiplient comme des souris dans les granges, dit-on. L'espace qu'on peut pâturer se rétrécit dangereusement. Les bois sont complètement fermés aux animaux à partir de Colbert, avec l'ordonnance des eaux et forêts. On défriche de plus en plus. Quand on cultive, comme dans le Midi, de la vigne ou qu'on fait de l'arboriculture, sont des espaces qui deviennent interdits aux animaux. Donc, on a au contraire des difficultés à nourrir ces bêtes. Parce que ces bêtes, il faut savoir que on les a toujours toujours nourri l'élevage en liberté, où on se contenterait de dire à son troupeau « va trouver la nourriture où tu peux », ça n'existe plus. Et il n'y a plus de pampa dans le royaume, moins certaines peut-être régions comme la Camargue ou la Corse, il n'y a plus d'élevage en semi-liberté. Donc les conditions d'élevage se dégradent et l'approvisionnement aussi.
Cette augmentation de la consommation de viande est aussi liée à de graves difficultés à cette période dans l'approvisionnement céréalier. C'est ce qu'explique l'historien Laurent Feller. Il était l'invité de la Fabrique de l'Histoire sur France Culture en avril dernier.
On vend le bétail en masse au moment où on a besoin d'acheter autre chose, c'est-à-dire du blé ou du pain.
C'est-à-dire qu'on se sépare de son capital de paysan, bien par sûr. Exemple, si on a du bétail, on va vendre son bétail, parce que d'abord on ne peut plus l'entretenir, parce qu'on ne peut plus aller à manger parfois.
Et les prix vont s'effondrer. Mais ça c'est quelque chose de tout à fait classique, les prix vont s'effondrer, et pendant un temps, la viande sera de grande abondance, sera pas chère, et les paysans vont manger beaucoup de viande pendant un petit moment.
Voilà qui va à l'encontre, Bruno Loriot, d'une idée reçue selon laquelle la viande était toujours plus coûteuse que les céréales.
Oui, il peut y avoir effectivement des inversions. C'est ce qui se passe à la fin du Moyen-Âge. On a une période effectivement assez haute dans la consommation de viande, pour autant qu'on puisse avoir des chiffres qui peuvent être toujours discutés, parce que faut calculer les rations, etc. Ce qui me frappe, c'est ce que je dis souvent, il y a des oscillations, si vous voulez, dans la consommation de viande. On a l'impression que forcément il y a une évolution linéaire, mais non, en réalité. Et je pense, alors pour élargir un peu les perspectives et sortir juste un instant du Moyen-Âge, c'est que ça peut nous aider à comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a à la fois, si vous voulez, un mouvement de long terme qui a été celui d'une augmentation de la consommation de viande. En même temps, en France, ce qu'on observe, c'est un mouvement un peu de décroissance de la consommation de viande, et puis aussi une volonté des gens, de certaines catégories de la population, de sortir de la viande. Et toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, ils existent déjà dans l'histoire. Et ça peut être utile quand même de savoir d'où l'on vient et à la fois ce qui s'est passé avant, de manière à éviter cette tentation d'être toujours dans l'instant et cette dramatisation qu'il y a autour des questions de la viande. Je pense que vous allez voir dans la suite de vos émissions.
Au cours de la semaine, absolument. Et peut-être que c'est le moment de faire un point de vocabulaire, Bruno Loriot, et dire que la viande au Moyen-Âge désigne en fait tout aliment qui permet de vivre. On parle plutôt de chair. Pour parler de viande,
c'est ça. Ben ça, c'est lié au latin, à l'origine latine. Caro, la viande, la chair, carnis, qui a donné donc carnis, etc., carnivore. Et c'est un terme qui va rester pendant assez longtemps. Alors, le terme viande existe. Là aussi, ça vient du latin. Ça veut dire ce qui sert à vivre, vivanda. Mais c'est progressivement qu'on voit un terme se substituer à l'autre. Ça se passe à l'époque moderne, on ne sait pas très bien quand. Enfin, moi, je ne sais pas très bien quand, mais Madeleine a sans doute des idées là-dessus. Mais on voit des textes modernes qui disent encore viande dans le sens ancien, et puis d'autres qui commencent à dire viande dans le sens nouveau. Je me demande s'il n'y a pas, alors c'est un peu osé, cette hypothèse, je me demande s'il n'y a pas une volonté, en quelque sorte, de décarnaliser la viande d'une certaine manière, puisqu'on utilise un terme un peu général pour désigner la chose et on n'utilise plus tout ce sémantisme qu'il y a autour de la chair, qui renvoie à la chair sexuelle, bien entendu, la luxure, et qui, en quelque sorte, met la viande elle-même comme muscle, vous voyez, au centre du propos. Je sais pas, c'est une idée, c'est une hypothèse.
C'est vrai que on mange pas de la chair, on mange de la viande. Donc comment on passe de la chair à la viande? Peut-être la sémantisation, ce travail aussi de d'euphémisation dont tu parles.
C'est ça.
Mais il y a, je pense, bon, deux opérations qui étaient nécessaires. La première, c'est de tuer cette viande, bien sûr, pour passer de la chair, pour passer de l'animal vivant à l'animal mort. Et la deuxième, et je crois que c'est une opération qui a énormément d'importance et qu'on pointe beaucoup autrefois, c'est la cuisine elle-même. C'est la cuisine qui transforme définitivement cette chair animale en viande désanimalisée. C'est la cuisson qui tire définitivement la chair du côté de la culture. Et dans la période que je vois, on ne mange pas de viande crue, on ne mange pas de viande rouge, comme on dit. On ne mange pas de viande verte, comme on dit. Nous, nous dirions bleu. Hein. Mmh. Vous voyez comment il y a ce jeu des couleurs aussi qui nous dit combien la viande est un objet culturel. Hein. Pensez au concept de viande blanche. Qu'est-ce que ça veut dire pour un naturaliste, ces viandes blanches qui transgressent toutes les espèces. Donc je crois que il faut cuire et cuire beaucoup la viande et bien la préparer pour qu'elle devienne définitivement de la viande.
Alors tout au long du Moyen-Âge, on va voir que la consommation de viande est le reflet de distinctions sociales. Les plus pauvres, par exemple, se nourrissent plus de viande fumée ou salée que de viande fraîche. Bruno Loriot, pour quelle raison ?
Il y a une question d'accès, de conservation. Si on a évidemment, si on avait de la viande en profusion tout le long de l'année, la question se poserait pas. C'est quand même les troupeaux eux-mêmes ne sont quand même pas la propriété de fractions très larges de la société. Il y a la possibilité d'avoir une ou deux bêtes, de les emmener sur les pâtures communales. Ça a longtemps d'ailleurs été une question, ça, un problème, un enjeu. Les terrains de pacage, bien entendu. Mais sinon, on n'a qu'une bête, hein, ou deux bêtes.
On dit qu'il faut des viandes de garde, de alors durée.
C'est des viandes souvent, si on met à part le porc, hein, qui est une question compliquée, parce que pendant longtemps, on a pensé que le porc était forcément la viande des paysans, parce qu'on avait des images où on voyait qu'on tuait le porc au mois de novembre, de décembre, et qu'ensuite on avait des réserves. C'est vrai qu'on avait des réserves, mais on sait que les paysans mangeaient aussi du bœuf, du veau certainement pas, parce que ça c'est la viande jeune. Donc il y avait aussi des bêtes de réforme qu'on abattait, donc qui n'avaient pas forcément une grande qualité organoleptique, on va dire. Ce qui explique, à mon avis, hein, donc ça c'est une autre question, c'est que au fond la viande des quadrupèdes pendant longtemps n'a pas été considérée, si on met par les viandes jeunes, hein, si on met par l'agneau, le veau, etc., n'était pas considérée comme une viande de grande qualité. Était considérée au contraire comme une viande pour paysans, voyez. Alors que la viande de qualité, en fait, à l'époque, c'était les volailles. Mmh. Et on utilisait une espèce de, vous voyez, d'image pour dire ça. On disait qu'il y avait une chaîne de lettres qui menait de la terre au ciel. Et donc tout ce qui était près de la terre, c'était des quadrupèdes qui convenaient aux classes base de la société.
Cette symbolique est importante. En effet, les volailles liées au ciel qui étaient du côté de l'aristocratie, à Madeleine Ferrière, là où le porc était longtemps considéré comme la nourriture des paysans.
Oui, mais je rejoins tout à fait ce que dit Bruno Loriot. De 1492 jusqu'au Second Empire, du point de vue du régime carné, ce n'est qu'un long Moyen-Âge qui se prolonge. Hein. Et ce bœuf dévalorisé, n'oublions pas que le centre du repas à la française, c'est le rôti. Mais ce rôti, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne, c'est forcément un rôti de volaille. Ça n'a rien à voir avec le rôti anglais qui, lui, est du bœuf. Il faut attendre le Second Empire pour que vraiment le bœuf, désormais engraissé sur des herbages, commence à avoir un petit peu les honneurs des tables bourgeoises et nobles.
Et vous parliez de conservation, une manière de conserver la viande, c'est aussi de le transformer en pâté. Bruno Loriot, le pâté, c'est en quelque sorte la boîte de conserve du Moyen-Âge.
Oui, alors bon, quand même avec des durées tout de même un peu limitées.
Hein. On imagine.
Donc, alors, faut imaginer que le pâté, c'est pas du tout comme nous on voit le pâté aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est en fait ce qu'on appelle nous un pâté en croûte, vous voyez. Donc, c'est en fait dans un enrobage de pâtes, on va dire. Ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être des fruits, ça peut être sucré, ça peut être salé, enfin c'est très variable. C'est lié à la fois à un moment dans le repas qui commence à s'individualiser progressivement au Moyen-Âge, et puis ça peut être lié aussi à une sorte de consommation de, on dirait presque de fast-food, vous voyez, donc de rue. De street food plutôt. Hein. Mmh. Donc, où on va dans la rue, on avale un pâté chaud. On a souvent dans la littérature des moments comme ça où on nous décrit dans des fabliaux une femme et son amant qui ont un rendez-vous et juste avant le rendez-vous pour prendre des forces, ou juste après pour les réparer. Donc, ils consomment rapidement un pâté qui est souvent effectivement un pâté de viande, un pâté de chapon, etc.
Et alors, selon vous, Madeleine Ferrière, ce qui distingue donc les mangeurs de viande, c'est moins la quantité que la qualité de la chair animale. Et alors, qu'est-ce que la distinction, nous y venons, entre la petite boucherie et la grande boucherie au Moyen-Âge, nous apprend sur ce point?
Mais ce sont des étals séparés qui ne vendent pas les mêmes espèces. Bruno l'a dit, la grande boucherie, c'est les espèces les plus nobles.
Donc le bœuf, les animaux de lait.
Voilà. La petite boucherie, alors là, ça dépend des règlements municipaux ou des règlements corporatifs. Mais c'est plutôt des viandes de seconde qualité, des femelles, des animaux plus vieux.
Et alors parfois, justement, pourquoi est-ce que les mâles sont vendus en grande boucherie et les femelles en petite boucherie?
Parce que le mâle, si c'est un mâle, il est plutôt gardé dans le troupeau pour sa viande. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup de mâles dans un troupeau pour uniquement la reproduction. Donc, en fait, à l'époque médiévale comme moderne, je pense qu'en boucherie, ce qu'on vendait pour mouton était plus souvent de la brebis, et ce qu'on vendait comme bœuf était le plus souvent de du bœuf de réforme ou de la vache de réforme.
Et ce que vous dites, c'est que la petite boucherie va assurer la transition entre les habitudes alimentaires paysannes et le nouveau régime citadin des ruraux qui arrivent en ville?
C'est-à-dire que dans la mesure où on peut, dans certaines villes, trouver dans la petite boucherie des viandes comme du porc ou ce qu'on appelle aussi la volaille noire, c'est-à-dire les canards, les oies, qui sont des volailles plus rôtirières par rapport au chapon ou au poulet, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut permettre aux nouveaux citadins de retrouver des habitudes alimentaires qui étaient les leurs avant dans leur campagne. Mais vous savez, la nourriture des pauvres, je crois que c'est ça la grande différence avec celle des classes plus aisées, c'est que la boucherie, c'est l'accès à la viande privilégiée pour les riches. Mais les pauvres, eux, passent pour manger de la viande, ça passe surtout par deux circuits différents qui sont d'une part le circuit de la viande toute préparée, par exemple les pâtissiers, les petits pâtés dont on parlait tout à l'heure dans la cuisine de rue, la tripière aussi qui fait partie de la cuisine de rue, ou alors par le circuit de la viande d'occasion, là qui est un circuit assez original que nous avons perdu de vue, c'est-à-dire le regras sous l'Ancien Régime, les restes des grandes maisons qui sont revendus. Rien ne se perd aux catégories populaires. Un circuit qui part de l'arrière-cuisine des hôtels particuliers ou des châteaux et qui aboutit dans les assiettes des moins riches. Au XIXe siècle, ces assiettes garnies, on les appelle tantôt les bijoux, les harlequins. L'argot parisien a inventé un tas de jolis mots pour cacher un petit peu la triste réalité de ces assiettes garnies. Mais c'est un circuit qui existe et par lequel, finalement, d'une certaine façon, les catégories inférieure pouvait s'initier à des goûts, des textures auxquelles ils n'avaient pas accès.
Et les façons de consommer la viande diffèrent aussi selon les groupes sociaux. Le noble ou le paysan ne va pas accompagner sa viande de la même façon, Madeleine Ferrière.
Il ne va pas la cuire non plus de la même façon. On parlait tout à l'heure du rôti. Et les broches, on les trouve que dans les cuisines nobles. Hein. La cuisine bourgeoise qu'on voit émerger avec des livres de cuisine au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est plutôt la cuisine du braisé, le mijotage, l'adobe. Le pauvre reste plutôt fidèle au bouilli, même si, enfin, tu me dirais, il me semble que le bouilli est quand même assez consensuel, dans la mesure où le potage figure toujours quand même en entrée au menu des nobles. Et il est aussi la base du repas des autres sous forme de soupe. C'est surtout sous forme liquide qu'on consomme le bœuf pour le fumer, les arômes qu'il apporte au bouillon. Et aussi, on l'aime avec des yeux, dit-on, avec de gros yeux, c'est-à-dire, vous savez, les flaques de gras qui peuvent parsemer le bouillon.
Et donc plutôt poivre et moutarde du côté des moins riches et plutôt épices orientales du côté des nobles.
Pour accompagner cette fois-ci la viande bouillie qui devait être plutôt sèche, oui. We'll be right back.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était la suite numéro 2 de la Symphonie pour les soupers du roi de Michel-Richard Delalande. Nous sommes toujours avec Bruno Loriot et Madeleine Ferrière pour parler de l'histoire de la consommation de viande. Alors comment la viande se vend-elle ? Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est l'espèce de la bête qui détermine le prix et non le morceau choisi. Et la hiérarchie des viandes est assez stable tout au long du Moyen-Âge, Madeleine Ferrière.
Alors je vais parler surtout peut-être du modèle méridional que je connais mieux et qui a perduré très longtemps, puisque c'est un système justement municipal où la boucherie est une concession municipale et où les prix sont fixés, ils restent les mêmes tout au long de l'année et ils sont fixés par espèce. C'est-à-dire vous allez à la boucherie, vous achetez du mouton, que vous tombiez sur un morceau de gigot ou un morceau de collier, mais souvent le boucher s'arrange pour mélanger les deux, vous payez exactement le même prix. Et je crois que ce qui est important, ce qui va faire évoluer à la fois la technologie bouchère et puis l'art de manger de la viande, c'est quand même la boucherie professionnalisée, disons, c'est-à-dire le modèle parisien qui va petit à petit s'imposer à tous.
C'est le modèle parisien qui va permettre que le prix ne soit toi de moins en moins fixé à la bête et non plus à et qu'il soit plutôt fixé à la pièce, Bruno Loriot.
Oui, et ça s'accompagne sans doute d'un mode de découpe très particulier dont on a beaucoup parlé dans un colloque il y a quelques années qui a donné naissance à un livre récemment. Donc c'est la découpe parisienne, donc qui est une découpe très particulière, beaucoup plus en effet professionnelle.
Parce que dès le début du XVe siècle, il y a des traités de découpe à la cour qui
alors oui, alors ça c'est la découpe des animaux sortis de la boucherie, je dirais, vous voyez, c'est-à-dire des animaux servis à table. C'est des écuyers tranchants. Alors ils font très attention, les écuyers tranchants, justement, à ce qu'on les confonde pas avec des bouchers. En général, ils sont issus d'un bon rang social. À la cour, découper à table, ça sert un peu d'apprentissage pour montrer aussi ses qualités de courtisan. Et faut bien comprendre qu'on mange avec les doigts. Ça peut dire qu'on mange à pleine main, à la manière d'Obélix, hein, on mange avec les doigts. Et donc, effectivement, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui se chargent, pour la beauté des autres gestes qu'on aura, de découper notamment les viandes, pas seulement, hein, les fruits aussi, mais les viandes, donc de manière à la fois élégante, fine et maniable. Donc effectivement, il y a cet aspect-là, la découpe des aliments, c'est pas, vous avez raison, c'est pas uniquement au moment où juste après leur abattage, on doit les transformer en morceaux, c'est aussi le moment où on les sert à table. Je voulais simplement dire que parallèlement, si vous voulez, à cette individualisation bouchère des morceaux, il y a une individualisation gastronomique des morceaux qu'on voit poindre dans les livres de cuisine, où on voit, ou dans, par exemple, les marchés, c'est-à-dire, en fait, les contrats qui sont passés entre les cours et les fournisseurs, où on voit peu à peu émerger précisément des indications de morceaux qui suggère que, au-delà donc de la simple bête, on aime tel morceau plutôt que tel autre.
Oui, vous dites qu'en 1600, on parle encore d'un bon morceau de bœuf bien gras, mais 50 ans plus tard, on réclame de la loyau et plus tard, de la culotte ou du filet. Voilà. On identifie les morceaux meilleurs.
On les identifie en tout cas de manière explicite. Après, est-ce que peut-être il y avait ce même souci avant, mais on n'a pas de documentation, on n'a pas de traces.
Et on observe également un partage des métiers entre les sexes. Si le circuit de la viande fraîche est essentiellement masculin, le circuit des tripes, par exemple, lui, est dominé par les femmes, Madeleine Ferrière.
Oui, et il faut bien dire que la féminisation est toujours un mauvais signe du point de vue professionnel, signe d'une certaine dévalorisation.
Donc c'est que les tripes et les abats sont considérés comme des viandes inférieures.
Les meilleures viandes, c'est la boucherie. Après, tout ce qui est quartier avant, ça part chez le pâtissier, c'est le haché, et c'est encore aujourd'hui, le hamburger a remplacé le pâté dans cette fonction de recyclage. Et puis alors les viscères, bien sûr, c'est l'apanage de la tripière. Mais comme ça exige une longue cuisson, elles sont vendues en général déjà échaudées et préparées au coin des rues.
Et oui, hein, quelque chose d'intéressant que vous dites par exemple, c'est le fait que la tripière, c'est la femme d'un paysan, alors que la bouchère est la plupart du temps la femme du boucher. Donc on voit vraiment que c'est une profession féminine de la tripière. Et alors on parlait tout à l'heure du paysan qui se nourrirait essentiellement de viande de porc salé, mais alors on a commencé évidemment à nuancer cette vision, car en réalité ce qu'on observe, ce sont de grandes disparités selon les régions, et par exemple la Limagne ou la Beauce, qui sont des régions considérées comme riches, des régions très agricoles. Dans ces régions-là, par exemple, le régime est essentiellement végétarien, Madeleine Ferrière.
Ce que vous suggérez, si je comprends bien, c'est que une région riche du point de vue agricole
ne l'est pas forcément.
Ne veut pas dire une région où on mange forcément bien. D'autant plus que si c'est une région qui s'est spécialisée précocement et qui pratique une sorte de monoculture, eh bien, en période de disette de céréales, c'est extrêmement, extrêmement dur. Et la Limagne, par exemple, qui était une zone céréalière déjà très développée au temps de Louis XIV, les gens de Limagne se sortaient beaucoup plus mal des périodes de famine que les gens des coteaux, qui eux pouvaient compter sur des céréales anciennes, des céréales de printemps pour récupérer la récolte déficiente de blé, sur des récoltes de fruits. Et donc, effectivement, en région de monoculture, la nourriture paysanne risque d'être à la fois plus monotone et moins équilibrée que celle des régions de polyculture traditionnelle. C'est sans doute un des freins, peut-être, dans les transformations de l'agriculture.
On observe de grandes disparités entre les régions, Bruno Loriot, et par exemple les Savoyards qui élèvent des chèvres, qu'ils salent pour leur consommation personnelle,
oui,
par exemple.
Bien sûr, oui, il y a des traditions, évidemment, régionales importantes en matière de viande, d'ailleurs, comme dans d'autres domaines, sans pour autant qu'on puisse parler à ces époques-là de cuisine régionale, hein, c'est quelque chose qui viendra au 19e siècle, très, très progressivement. Donc, on fond un système assez culinaire assez précis, propre à une province. Donc, on n'en est pas encore là. Je voulais juste à propos, excusez-moi, je reviens un peu en arrière.
Bien sûr.
C'est mon côté un peu pénible, ça. Donc, je voudrais revenir sur les tripes, en fait. Parce que, enfin, les viscères. Parce qu'au fond, je me demande s'il faudrait pas un jour faire une histoire des viscères, vous voyez, une histoire des tripes, parce que on voit qu'il y a des moments, en fait, où elles n'étaient pas si mal considérées que ça. Dans l'Antiquité, les extas, ou les sphagnia pour les Grecs, c'est des parties qu'on réserve aux dieux. Alors, dans les fêtes, on les consomme, hein, mais elles sont considérées comme vraiment de la viande, on va dire, de qualité, enfin des produits de qualité. C'est encore le cas un petit peu au Moyen-Âge, mais ensuite, effectivement, à l'époque moderne, ça change diablement.
Mais vous dites que le goût des tripes est unanimement partagé au Moyen-Âge comme à la Renaissance, malgré le fait que les bas morceaux sont souvent méprisés,
voilà,
comme on le disait.
C'est ça. Il y a quelque chose là qui peut-être mériterait qu'on y réfléchisse. C'est l'idée qui me vient tout à coup en débattant.
Mais c'est un petit peu compliqué l'histoire des tripes, c'est assez singulier parce que d'autre part, quand vous posez la question aimez-vous les tripes, vous vous rendez compte des réponses extrêmement contrastées dans un même groupe, un même milieu. Donc vous dites en matière de tripes, c'est viscéral si j'ose dire et donc il n'y a de goût qu'individuel. Et en fait, il y a aussi des goûts collectifs, mais c'est Et suivant les cultures, c'est vrai qu'il y a une appétence pour les tripes qui étaient plus répandues dans les périodes anciennes et qu'on voit. Et alors que dans la période plus moderne, l'élite, elle se rabat plutôt sur les abats uniquement, et encore les abats nobles, le palais de bœuf, la tête de veau, le riz de veau, etc.
Et cette appétence pour les tripes, est-ce que c'est aussi un plaisir zoophage, c'est-à-dire le fait qu'on désigne le fait de manger un animal que l'on identifie comme un animal, avec peut-être aussi cette idée que l'on absorbe les vertus du vivant quand la chair est presque encore palpitante, Madeleine Ferrière?
Ah, sans doute qu'il y a encore un peu cette forme de pensée magique. Le foie restaure le foie, la cervelle restaure la cervelle. Je ne sais pas si c'est une pensée propre au Moyen-Âge et époque moderne. Elle n'a peut-être pas totalement disparu. Je me souviens que ma mère m'avait fait manger de la cervelle d'agneau le jour des concours et qu'elle est absolument persuadée que c'est grâce à ça que j'ai réussi. Mais c'est lié à une logique qu'on appelle la logique du zoophage, c'est-à-dire du consommateur qui ne refuse pas cette idée d'envisager l'animal vivant, l'organe vivant, palpitant presque, derrière le produit qu'il consomme. C'est une logique dont nous consommateurs d'aujourd'hui, nous sommes complètement détachés et nous sommes devenus ce qu'on appelle des sarcophages, c'est-à-dire des mangeurs de viande anonymes et complètement désanimalisés.
Alors comment se passe justement cette transition de la zoophagie à la sarcophagie, Bruno Loriot? On ne veut plus que l'animal mort ressemble à un animal, que la viande ressemble à un animal.
C'est ça. Et à mon avis, c'est une des raisons dans les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la viande, en réalité. Dans un problème con, un grand nombre de gens avec la viande, parce qu'il y a une sorte de méconnaissance. Ça participe au fond d'un mouvement assez sur le long terme qui a consisté un peu à éloigner la mort animale, à travers, en même temps que les cimetières, on éloignait des villes les abattoirs. Donc toute la mort, au fond, était un peu mise à l'écart. Et du coup, on n'a plus ce contact direct qu'on pouvait avoir avec l'animal, qui précède en quelque sorte la viande. Et cette sorte de familiarité, je crois que c'est un élément important, me semble-t-il, dans le goût de la viande.
Bon. Est-ce que cette sarcophagie, elle pourrait être un effet de la curialisation, c'est-à-dire l'extension des pratiques de la cour à l'ensemble de la société?
Pourquoi pas? Oui, ça peut être une piste. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, on va faire, par exemple, au XVIIIe siècle, une cuisine de plus en plus quintessentielle, comme on dit à l'époque. C'est presque la gastronomie moléculaire, vous voyez, d'aujourd'hui. On s'éloigne effectivement du produit de base, considéré peut-être effectivement comme un peu vulgaire.
Et on a commencé à parler tout à l'heure des tabous, et vous parliez aussi de cette forte portée symbolique d'un certain nombre d'aliments et de viande. En l'occurrence, c'est de l'époque médiévale, de l'époque des chevaliers, que date par exemple le tabou qui frappe la consommation de viande de cheval.
Alors, pour moi, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou sur la viande de cheval.
Même pas à l'époque?
On a quelques textes. Il y a un article récent dans Pour une histoire de la viande qui le montre assez bien. En réalité, on a un texte, si vous voulez, qui dit ça, mais c'est un texte écrit par un pape d'origine orientale, isolé dans le christianisme occidental et dont l'impact a sans doute été assez faible. Ce qu'il y a, c'est qu'on consomme pas habituellement du cheval. C'est pas une viande habituelle. On s'y met vraiment en cas de difficulté, par exemple de famine. Là, effectivement, on peut consommer du cheval. Ceci étant, à mon avis, qu'est-ce qu'on faisait de tous ces chevaux qui mouraient? C'est une vraie question. On sait qu'au XIXe siècle, à Montfaucon, dans un coin qui était assez terrible, au XVIIIe siècle, pardon, à Montfaucon, là où il y avait le gibet, il y avait aussi tous ceux qui s'occupaient des viandes des animaux morts, et que certains d'entre eux mangeaient.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. On va encore avancer un peu dans le temps. Et j'aimerais vous demander à quoi ressemble la consommation de viande après la Révolution française, alors qu'on est dans cette période d'industrialisation très forte, Madeleine Ferrière.
Moi, j'ai envie de continuer sur l'hypophagie parce que c'est un problème qui se passe justement au moment où la révolution fourragère s'est faite, au Second Empire, et où la question de manger de la viande de cheval montre bien la difficulté de définir la catégorie viande de boucherie. Dès qu'il s'agit de sortir des catégories connues, officiellement admises, il y a problème, il y a polémique. Et chaque fois qu'on envisage ce qu'on appelle des protéines animales de substitution, il y a ce problème qui surgit. C'est aujourd'hui avec les insectes, c'était sous le Second Empire avec le cheval. Et cette question que pose Bruno de la familiarité avec l'animal. Parce que le problème se complique à ce moment-là, parce que le cheval cesse, il est supplanté par l'automobile dans les villes, et puis après par le tracteur, après la guerre de 14, dans les campagnes. Donc le cheval n'est plus un moteur. Qu'est-ce qu'il devient? Un animal de compagnie? Mais est-ce qu'on mange son animal de compagnie? Donc vous voyez, les questions de la viande relient intimement tout ce qui est le ravitaillement, la production, les représentations. Et c'est un sujet vraiment d'histoire culturelle globale.
Bruno Loriot, un dernier mot peut-être sur la montée en puissance de l'industrie de la viande, alors au 19e d'abord, puis évidemment au 20e siècle, qui va transformer en profondeur notre relation à la chair animale et à la consommation.
Oui, en effet, qui la transforme, mais en parallèle avec d'autres transformations, l'urbanisation, et cette espèce de perte de contact en fait. Perte de contact avec l'animal et avec la manière de le préparer aussi. Hein. Donc, et aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre, c'est qu'on a des jeunes générations qui s'intéressent beaucoup à leur alimentation, mais il y a une sorte de solution, enfin de perte de rupture, si vous voulez, et de perte de compétences en amont, qui fait que il faut revenir à cette reprise de compétences, et c'est pas simple pour se réapproprier la viande. La seule question qu'il faut se poser, c'est pas la seule, il y en a plein, mais une des questions majeures qu'il faut se poser, c'est comment se réapproprier la viande. C'est un point essentiel, à mon avis.
Et ben, c'est une question qu'on va tenter de se poser toute cette semaine. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une enquête qui nous apprend que la consommation de viande baisse en France depuis 20 ans.
Mais oui, après des décennies de démocratisation et de hausse de la consommation de viande en France, une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, publié le mois dernier, nous apprend que la consommation de produits carnés, selon les termes de l'étude, a chuté de 12% au cours des 10 dernières années. Les causes sont bien entendu multiples, mais le rapport met en avant les changements de perception et la prise de distance progressive vis-à-vis de la viande, du fait notamment des multiples scandales sanitaires, de la vache folle à la fin des années 90, ou encore de la grippe aviaire en 2005. En réalité, si ces scandales n'ont eu qu'une incidence ponctuelle, éphémère, sur la consommation de viande, ils ont néanmoins contribué à faire évoluer la perception d'un aliment considéré jusqu'alors comme bénéfique pour la santé.
D'autant que les recommandations des médecins ont elles aussi évolué.
Oui, alors que l'on recommandait il y a quelques décennies encore de manger de la viande à chaque repas, on met aujourd'hui davantage l'accent sur la nécessité de manger des fruits et légumes variés. La viande, elle, fait l'objet depuis les années 80 d'alertes sanitaires, pointant notamment son incidence négative sur le cholestérol. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a même établi un lien entre la consommation abusive de viande rouge et le déclenchement de certains cancers. Mais au-delà de cette question sanitaire, ce sont bien sûr des questions économiques qui jouent dans cette baisse de la consommation des matières carnées, comme les appellent poétiquement les chercheurs. Ainsi, la hausse du prix des matières premières depuis le milieu des années 70 s'est répercutée sur le coût de l'alimentation animale, entraînant une explosion du prix de la viande. En 1992, il fallait débourser en moyenne 20 € pour un kilo de bœuf, contre près de 39 € en 2014, soit une augmentation de 64% en 20 ans.
Pourtant, ce sont aujourd'hui les catégories populaires qui consomment le plus de viande.
Oui, et si cette consommation baisse pour l'ensemble de la population française, c'est toujours chez les ouvriers que l'on mange le plus de viande, avec 151 grammes consommés par jour en moyenne contre 113 grammes chez les catégories les plus favorisées. Pour le sociologue Arnaud Frauenfelder, cette appétence pour la viande en milieu populaire n'a ainsi rien de naturel, mais a largement été construite, notamment au cours du 19e siècle. Soupçonnées de manger mal ou insuffisamment, les classes populaires sont soumises, selon le chercheur, à un contrôle alimentaire de plus en plus conséquent et intrusif. On convainc donc à cette époque les ouvriers de l'importance de consommer fréquemment de la viande, et peu à peu, cette injonction sanitaire et alimentaire se transforme en signe social de bien manger. Aussi, comme l'explique l'enquête du CREDOC, la consommation de viande reste un marqueur social fort. L'enquête explique, je cite, que l'on remarque chez de nombreux ouvriers qu'il est inconcevable de faire un repas sans viande.
Or, les injonctions ont changé. Il convient désormais de manger équilibré, diversifié, bio et responsable.
Exactement. Et les catégories populaires accusées par le passé de ne pas manger assez de viande se retrouvent aujourd'hui soupçonnées de manger à la fois trop, trop gras et trop sucré. Selon les mots du sociologue, les classes populaires apparaissent comme les victimes toutes trouvées de la malbouffe, érigé en symbole pathogène de la société de consommation et de ses dérives. Mais il ne faut pas oublier que chez les classes populaires aussi, la consommation de viande décroît et que si elles mangent moins bio, c'est que ces produits coûtent encore souvent trop cher. Les pouvoirs publics et les producteurs peuvent et doivent donc se saisir de cette évolution des pratiques afin de changer en profondeur les modes de production et de permettre aux Français non pas de manger moins, mais bien de manger mieux.
Meat is Murder des Smiths. Merci beaucoup Bruno Loriot et Madeleine Ferrière de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Bruno Loriot, je rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé avec Marie-Pierre Aurard, Pour une histoire de la viande, fabrique et représentation de l'Antiquité à nos jours, publié aux presses universitaires de Rennes. Et Madeleine Ferrière, je rappelle également votre livre Histoire des peurs alimentaires du Moyen-Âge à l'aube du XXe siècle, réédité aux éditions Point Histoire. Demain, on se glissera dans les circuits de production de la viande en compagnie de Jean-Paul Simier et de Jean-Louis Rastoin. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.